J'ai glissé, chef.
Figurez-vous que Thérèse n'est pas moche. Elle n'a pas un physique facile.
J'ai du mal à parler parce que j'ai les dents qui poussent.
Quand on parle pognon, à partir d'un certain chiffre, tout le monde écoute.
Tu me parles le cœur.
Si je connaissais le camp qu'a fait ce truc bon.
Ce soir, je vais conclure.
La connerie à ce point-là, moi, je dis que ça devient gênant.
C'est pas son jour, dites donc.
C'est jamais son jour.
Il y a pas d'hélice, c'est l'as.
C'est là qu'est l'os.
Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner.
Votre émission qui parle le cinéma, et oui, on se trompe dans les manettes, hein. Il y a tellement de boutons qu'on ne sait plus. Ça va, Pascal ?
Ouais, ça va super bien, et toi, Christophe ?
Eh bien, très bien, en forme pour aller au cinéma, effectivement, cette semaine.
Oui, exactement, avec plein de choses à découvrir.
Eh bien, écoute, on va parler de ce nouveau rendez-vous sur Radio Grand Air, 94e émission. On va parler de belles choses cette semaine en pays foyen, Pascal.
Alors, cette semaine, oui, il y a des films, beaucoup. Et on a, rien que pour la semaine prochaine, la semaine là qui arrive, on a 3 films en sortie nationale, plus une avant-première. Une avant-première d'un film qui a cartonné il y a 2 ans. Maison de retraite.
Exact. Ça revient, et qui a
fait
la suite.
Je ne savais pas qu'il avait fait autant d'entrées, il avait fait 2 millions d'entrées. J'ai revérifié, on en avait parlé la dernière fois, là, 2 millions d'entrées. Donc ils remettent ça, avec d'autres acteurs évidemment.
Ouais.
Donc on reviendra dessus tout à l'heure vite fait. On fera le
avec un Christian Clavier bien évidemment dans le rôle principal.
Dans Maison de retraite.
Non. Ouais.
Là, tu confonds avec Cocorico. On va en parler tout à l'heure. Non, il n'est pas encore l'article de la maison de retraite Christian Clavier.
Mais ça ne serait trop tardé.
Mais écoute, j'espère qu'il n'écoute pas.
Je donnerai ton numéro de téléphone.
Ouais, si tu veux. Il n'y a pas de souci. Non, mais tu sais qu'ils étaient, là. Ah non, c'est pas eux. Non, je confonds. Non, on va passer. Alors, cette semaine, on a 7... J'ai sélectionné cette film. Il y en a bien plus que ça. Vous imaginez bien, il n'a pas pris une vingtaine.
Ouais.
On va parler de la dernière création. Donc, on aura en sortie nationale. Ça, c'est pour les petits, de Neil Boyle et Kirk Hendry, Le Royaume de Kensuke.
Voilà, beau film d'animation.
Exactement. On va parler aussi du dernier film qu'on aura aussi en sortie nationale de Julien Hervé. On va parler de Cocorico.
Voilà, enfin.
Voilà, d'où venons-nous, clavier, ouais. D'où venons-nous ? Quelles sont nos origines ? Serons-nous choqués si un jour on nous présente un test ADN ?
Ça me fait penser à un film, ça, tiens.
Ah ouais ?
Ouais, Plancha.
Plancha ? Ça me dit quelque
Il
chose.
Il est question d'ADN
C'est
dans
vrai
le film de Plancha.
Ah, d'accord.
Ouais. La suite de Barbecue.
Ah oui.
Avec Lambert Wilson, à un moment donné, il y a une histoire d'ADN.
Exact, oui.
Le cadeau qui tue.
C'est là où ils sont en vacances, ils s'ennuient à mourir en Bretagne, c'est
absolument,
ça.
Absolument, et il offre un cadeau, c'est son anniversaire pour ses 50 ans. Et en fait, il a fait faire un test ADN, mais c'est pas bon du tout.
C'est pas bon du tout. Mais de toute façon, je sais pas à quoi tu t'attends quand tu fais un test ADN. Enfin, je veux dire,
non, surtout quand tu penses que t'as des origines bretonnes et qu'en fait non.
Ouais, que tu l'as pas. Ça, déjà, ouais. C'est vrai, c'est décevant. On va parler aussi de la dernière création de Todd Haynes et du retour de Natalie Portman à l'écran dans May December. On va parler aussi de la dernière création, alors qu'on aura en sortie nationale, de Quentin Dupieux.
Sur Dali.
Quentin Dupieux, exactement. Alors Dali, oui, Dali.
Avec Stéphane, l'acteur que j'aime bien, Baird, dans le rôle principal.
Edouard Baird,
voilà. J'avais oublié son prénom.
Voilà, alors Dali, évidemment, ça ne s'écrit pas Dali, D-A-L-I. Hein. Il y a C-D avec 6 A-L-I, point d'exclamation.
C'est pour le copyright ?
Je ne sais pas, peut-être pour la prononciation, je ne sais pas trop. On va revenir sur le film dont j'avais parlé la dernière fois, d'Arnaud Despalières. Captive.
Très bien, oui.
Voilà, j'ai quelques informations de plus qui sont tombées.
Ouais, avait parlé de cet univers psychiatrique.
Voilà, ainsi que de la dernière création de Yorgos Lanthimos, donc c'est la dernière création des studios Disney, donc ces pauvres créatures. On va revenir dessus tout à l'heure. On va parler brièvement évidemment de Maison de retraite 2. Mm-hmm. Et dans le cadre de la sortie Maison de retraite 2, on va parler de Jean Reno. Jean Reno, grand acteur que tout le monde connaît.
Absolument.
Dramatique.
Qu'on a découvert dans un des plus beaux films de Besson. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai découvert là. C'était Le Grand Bleu.
Le Grand Bleu, Le Dernier Combat.
Ouais, aussi, ouais.
Que je n'ai pas vu dans sa filmographie. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. je comptais le trouver, le trouver dedans. Non. Et je ne l'ai pas trouvé. Alors, c'est peut-être moi qui fais une erreur aussi. Hein. Je n'ai pas la science infuse non plus. Donc, à revérifier. Mais voilà, Jean Reno, grosse carrière.
Bon, alors Pascal, on va tout remettre dans l'ordre. Et on va relancer le début de l'émission.
Ouais.
Parce que tu ne nous as pas fait l'entrée de l'émission.
Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Grand Air. Soyez toutes et tous les bienvenus dans ce numéro 94 d'Entracte.
Voilà, on remet les choses dans l'ordre. Tu nous as présenté le sommaire, tu nous as présenté l'ouverture de l'émission.
On a monté les marches.
On était très pressé de découvrir cette programmation.
On est trop motivé.
Très intéressé par le programme de La Brèche cette semaine avec Artek. Alors évidemment, tu le disais il y a quelques instants, tu nous as présenté un beau rendez-vous très famille qu'on va pouvoir découvrir, un film d'animation qui s'appelle Le Royaume
de Kensuke.
Ouais, alors c'est pour les jeunes.
Voilà, alors, non, je croyais que tu allais me demander si c'était japonais.
Non, j'ai pas osé.
Non, ce n'est pas japonais. C'est anglais, luxembourgeois, France.
Très bien.
Un film, petit film d'1h24, aventure animation, de Neil Boyle et Kirk Hendry. Alors, c'est l'histoire de l'histoire incroyable donc de Michael, de 11 ans, qui part faire un tour du monde à la voile avec ses parents, avant qu'une terrible tempête ne le propulse par-dessus bord avec sa chienne Stella. Échoué sur une île déserte, comment survivre ? Un mystérieux inconnu vient alors à leur secours en leur offrant à boire et à manger. C'est Kensuke, un ancien soldat japonais vivant seul sur l'île avec ses amis, les orang-outans, depuis la guerre. Il ouvre à Michael donc les portes de son royaume, et lorsque des trafiquants de singes tentent d'envahir l'île, c'est ensemble qu'ils s'uniront pour sauver ce paradis. Alors ça fait penser quand même à une histoire. Un japonais.
Ah bon ?
Un soldat japonais, oui. Coincé sur son île.
Ah oui, ça me parle.
Alors, ils en ont fait un film il n'y a pas très longtemps, je ne me souviens plus du nom, je suis vraiment désolé. Mais c'est tiré d'une histoire vraie.
D'accord.
Je pense qu'ils se sont inspirés de ça aussi.
Ouais.
Oui, parce que quand l'armistice, le Japon a abdiqué.
Ouais, il restait.
Il restait ce soldat japonais, plus ses petits copains.
Oui, ils n'étaient pas au courant que c'était fini.
Non, ils n'étaient pas du tout au courant. Puis même quand on leur a dit, parce qu'évidemment, on a essayé de les faire sortir de la forêt, donc ils ont balancé des tracts et tout. Mais ils n'ont pas voulu y croire. Mm-hmm. Ils croyaient que c'était de l'intox. Ils voulaient vraiment entendre leur officier leur dire que c'était la fin. Et donc je crois que ça s'est terminé dans les années 70 ou tout comme ça. Ils sont restés des décennies. Ouais. Ils volaient dans les villages aux alentours et tout. Enfin, non, c'était pas des tendres quand même, les gars, quoi.
Et toujours habillé en tenue militaire. Oh,
pratiquement, ouais. Donc oui, il a enterré tous ses petits copains. Ah, ouais. Et lui, il est resté seul. Hein. Oui. Et c'est après plusieurs expéditions vraiment qu'il a on va dire instigé par des Japonais qui connaissaient un petit peu son existence.
Il y a eu un film à ce sujet.
Un film sur lui, absolument. Qu'on a passé il n'y a pas très longtemps à La Brèche. Je ne me souviens plus du titre, je suis désolé.
Ouais.
Mais ça me fait penser à cette histoire-là, quoi. Sacré japonais.
On parlera du Japon également tout à l'heure avec un film qui va sortir à la fin du mois.
Exactement. Oui,
film français sur la guerre d'Indochine.
Les derniers hommes, oui.
Ouais, tout à fait.
Un gros sujet d'histoire. Mm-hmm. Méconnu. Occulté.
Très important.
Occulté, oui. En plus, ça n'apparaît que brièvement dans les livres d'histoire. Ouais. Et je le regrette parce que c'est un véritable drame, la guerre d'Indochine. C'est quelque chose quand même. Il faut se pencher un petit peu dessus pour comprendre un petit peu déjà les rapports qu'ont eu la France avec l'Indochine, évidemment.
Alors, le royaume de
Kensuke, oui. Alors,
à voir absolument.
Ça sera à La Brèche, évidemment, à découvrir. Et il y aura un ciné-goûté, donc un ciné-goûté-jeu, le mercredi 7 février à 14h15, lors de la première projection. Hein. Donc, il y aura ma collègue donc Marjorie, hein, qui sera là pour animer les ateliers et s'occuper du goûter.
Voilà, on rappelle que le mercredi après-midi, hein, c'est le jour de
loisirs.
Enfants,
hein, voilà, c'est le jour de
détente.
Ouais, de loisirs, de détente.
On amène les enfants
aussi,
au
ouais,
cinéma.
Voilà, mais aussi de réflexion. Hein. Il n'y a pas que des ateliers, il y a de jeux, il y a aussi des ateliers de réflexion. On peut parler du film à la fin. Voilà, ça c'est ma très chère collègue qui s'occupe de ça et qui le fait très bien.
Eh bien, c'est noté, Pascal, hein, pour ce joli rendez-vous avec donc cet événement pour les plus jeunes et les familles à ne pas rater cette semaine à la Brèche. On va revenir sur un moment plus léger. C'est le retour de Christian Clavier. Christian Clavier qui fait son retour, mais pas tout seul, hein,
parce
qu'il y a à ses côtés Didier Bourdon aussi, qui tente beaucoup en ce moment.
Oui, oui, Didier Bourdon également. Oui, oui, il y a voilà, Sylvie Testu, il y a tout un tas d'acteurs. Il y a une grosse distribution, mine de rien, là, pour Cocorico.
Voilà, Cocorico. Voilà.
Ouais. Alors, j'ai vu qu'en ce moment, on la promo partout.
Oui, j'ai vu, ouais.
Eh ben, tant mieux.
Bah, écoute, c'est, oui, c'est, une grosse promo, ouais.
C'est bon pour les cinémas, mais oui, bien sûr. Mais je trouve que c'est bien que la télé se fasse le relais du cinéma. C'est bien aussi de temps en temps, parce que. Comme je l'avais dit une fois, où sont les émissions de cinéma sur le service public?
C'est exact.
Elles ont entièrement disparu.
À l'époque, c'était Pierre Tchernia qui.
Ouais, alors là, mais ça, c'était au. Non, mais ça, c'était au paléolithique supérieur, ça. Mais tu vois, alors peut-être. Alors, il y en a. Il y en a pléthore sur le net. Hein.
Oui, enfin, il y en a que je suis. Canal Plus avait une émission qui s'appelait Le Cercle.
Ouais, le dimanche, ouais.
Le dimanche, oui, oui. Sur le cinéma, les sorties cinéma. Mais
c'est pareil, après, tout le monde n'a pas accès à Canal Plus, c'est ça, quoi. Mm-hmm. Je ne sais même pas si c'est en clair le dimanche matin.
C'était en clair.
Ouais, bon. Mais sinon, sur le grand service public, il n'y a plus rien. Il n'y a pratiquement plus rien. Alors peut-être que je me trompe, ça se trouve, j'ai dit une grosse bêtise.
Ah, non, mais je pense que
perso,
tu as raison.
J'en vois pas. J'en ai jamais pas vu passer. Alors j'ai vu qu'ils maintenaient quand même le cinéma de minuit, alors qu'ils se repoussaient à 1h du mat. C'est un truc. Voilà, il faut être vraiment dans son bulle pour aller s'envoyer des films des années 30. Mais bon, ils persistent. Ça, c'est très bien. Ouais. C'est très bien le cinéma de minuit. Ça, c'est vraiment une grande institution pour tous les amoureux du cinéma. Et pas contemporain.
Ouais, les noctambules, c'est bien aussi, c'est une ambiance.
Non, mais là, franchement, la dernière fois, j'ai vu l'heure, c'est, tu vas dire 1h du mat, bon. Oui, ça ne s'adresse pas à tout le monde, ça, c'est sûr. Il ne faut pas travailler le lendemain, c'est ça qui est. Voilà, il y a ça surtout aussi.
Travailler l'usine, travailler de nuit, c'est bien, tu peux regarder entre deux.
Ouais, tu t'envoies un film de 2h30, tu te couches à quelle heure? À 3h30.
Voilà. Après, tu as les cernes le matin, c'est dur.
Ouais, c'est dur. On va parler de Cocorico, le dernier film de Julien Hervé. Un film français d'1h32, c'est une comédie. Alors évidemment, on va se détendre un petit peu. Je trouve ça très bien. Alors, Julien Hervé, évidemment, c'est un réalisateur qui a réalisé quand même pas mal de films, dont Le Doudou en 2017, avec Cadmérade. Les Tuches 5, il a scénarisé Les Tuches, il a scénarisé tous Les Tuches.
Ah, bah d'accord.
Julien Hervé, oui. D'ailleurs, il y a le prochain qui arrive là.
Oui, tu en avais parlé, donc fin d'année, on aura ça.
Ça sera Les Tuches 5. 5 6 5
Peut-être 5. C'est tellement en duo et en duel avec le film d'Avatar. Hein. On attend avec impatience aussi pour la fin de l'année. Rien à voir avec Les Tuches, mais.
Oui, normalement, Avatar devrait sortir. Oui, bien sûr, le prochain volet. Et en 2023, il a scénarisé Astérix et l'Empire du Milieu.
D'accord.
Voilà qui est un petit peu Julien Hervé. Hein. Alors, au niveau des acteurs, on va retrouver Christian Clavier, Didier Bourdon, Sylvie Testu, Marianne Denicourt, Julien Pastel, Chloé Coulot. Patrick Préjean. Tu vois pas qui c'est?
Non mais je. Si.
Tu parlais du paléolithique, voilà.
J'étais en train d'hésiter, je me suis dit il est encore vivant.
L'Académie des Neufs.
Patrick Préjean qui a joué notamment dans un de la série des gendarmes à Saint-Tropez. Je crois que c'était un des derniers, je pense. Ouais. Les gendarmes et gendarmettes.
Je me demande si on le voyait pas dans les Brigades du Tigre aussi. Alors, c'est pour dire si ça remonte.
Alors c'est possible.
Patrick Préjean. Voilà. Et Joanne Dionnet. Alors sur le point de se marier, Alice et François décident de se réunir, donc leurs deux familles. Pour l'occasion, ils réservent à leurs parents un cadeau original, des tests ADN pour que chacun puisse découvrir les origines de ses ancêtres.
Ça c'est dur.
Mais la surprise va virer au fiasco quand les Bouviers, sauvages grandes familles aristocratiques, et les Martins, beaucoup plus modestes, découvrent les résultats, pour le moins inattendus. Bon, tu veux le connaître le résultat?
Ah non,
c'est le mec qui spoil le film. Mais si, je vais te le dire.
Ah non, surtout pas. Surtout pas.
Donc voilà, le test ADN.
Très important.
Oh bah mon ami, tu dois pas pleurer parce que vu le brassage, on va dire, européen, ouais. depuis des siècles, tu risques d'avoir des surprises, ça c'est sûr et certain. Cocorico. Donc à découvrir à la Brèche. J'espère que voilà, j'espère que ça fera un gros carton en sortie nationale.
En tout cas, vous allez certainement rigoler. Il y a de bons artistes
ça.
Et puis.
C'est fait pour ça. Ouais, tu sais, quand j'avais présenté Chasse Gardée, j'ai dit tiens, j'espère que des gens, on avait parlé des néo-ruraux, tout ça. J'ai dit, j'espère que vraiment les gens vont venir se marrer, tout ça. Et ça a été le cas. Et les gens étaient au rendez-vous. Bon, évidemment, il y avait le sujet de la chasse dessus qui ouais. pesait beaucoup compte tenu du public qu'on a reçu, mais voilà, je trouve ça très bien, voilà, qu'ils sortent des comédies comme ça. J'ai l'impression qu'ils en sortent un peu plus.
Ouais.
Je sais pas pourquoi, c'est peut-être une idée, mais voilà, j'ai l'impression qu'il y en a nettement plus et voilà, qui sont bien fréquentés. Ouais. Donc, cocorico, comme ils disent dans le film.
Des ondes positives. On va retrouver un extrait de la bande-annonce de Cocorico et on se retrouve juste après.
Bon, t'es prête pour la rencontre ?
Je suis ravie de rencontrer les parents d'Alice. Tu sais que ton père et moi, on n'est pas du genre à faire des manières. Hein.
Alors, elle vous plaît ? Voilà la beauté.
Mais t'es fou, chérie !
Je l'ai emprunté à la concession. Elle est même pas encore en vente, hein. C'est une merveille.
Tu sais, papa, ça sert à rien de vouloir impressionner les bouviers sauvages.
Oh, je sais très bien que ça va les impressionner, mais je fais pas ça pour ça. Bon, allez.
Mon Dieu, mais c'est magnifique.
Un peu froid, mais joli.
Bah alors, vous allez voir les vignes, c'est là qu'ils font leur vin depuis des centaines d'années.
On a bien fait de s'habiller un peu, quand même.
Ouais. Moi, j'ai bien fait de pas apporter de pinard.
Ça en jette, hein.
Pour chauffer ça, la douille, hein.
Frédéric Bouvier Sauvage, enchanté.
Nicole et Gérard faisaient des compliments sur le domaine.
Ah oui.
C'est une des plus belles propriétés de toute l'Aquitaine.
Je vous fais découvrir.
Oh oui, j'adore le billard.
Alors moi, je joue à l'américain.
Oui, bien sûr, comme dans tous les bars PMU.
Chérie, t'as raté quelque chose, hein.
Quoi ?
Un jardin d'hiver magnifique avec des orangers, des orchidées très rares.
Nous aussi, on a un jardin d'hiver à la maison. On appelle ça une véranda.
Si on a organisé cette rencontre, c'est pour vous dire que François a demandé ma main et que j'ai dit oui, on va se marier.
À l'union de...
De nos deux familles, oui. On a un petit cadeau pour vous. Le labo où je travaille est américain. Ils nous ont offert les tests ADN. C'est un test qui détaille toutes vos origines.
Ah.
Les résultats, les voilà.
Alors, notre test ADN, il est sur les murs de ce château.
Nous sommes en France depuis Louis VI le Gros.
Tu sais, ma chérie, c'est un peu comme ton père, hein. Mes ancêtres sont connus depuis longtemps. Je suis française et italienne, et voilà, c'est tout.
Enfin, moi, je suis français depuis toujours, alors si ça peut vous faire plaisir, j'ai rien à cacher, moi.
Alors, qui commence ?
Oh, putain.
Merde. Qu'est-ce que c'est que cette connerie ?
Voilà, on n'en sera pas plus, mais alors, allez voir Cocorico.
En première partie, il y a quand même un petit peu d'informations, parce que c'est tombé dans le Sud-Ouest aujourd'hui, je ne savais pas du tout, je n'étais pas du tout au courant.
D'accord.
Où a été tourné Cocorico ? Les scènes intérieures.
Il parle de Nouvelle-Aquitaine.
Voilà, ça t'a mis la puce à l'oreille déjà. Ouais. Alors, les scènes extérieures.
Il y a un château, il y a du vin, loin de Saint-Émilion.
Il y a des milliards dans la Nouvelle-Aquitaine. Bon, ça a été tourné dans un château dans le Fronsadet.
Ah, Fronsadet, d'accord. Bah,
tu vois, du côté de Fronsac.
D'accord.
Ça, c'est pour les scènes extérieures.
Ok.
Pour les scènes intérieures, ça a été tourné où ? Encore plus près. Juste à côté de nous, de chez nous, là. À côté de Sainte-Foy.
Ah
à
bon
côté de Sainte-Foy, oui, monsieur.
Ah, mais je ne savais pas.
Le château de Saint-Michel de Montaigne.
Ah oui, très bien.
Mais je ne savais pas du tout.
Bah, et Saint-Michel de Montaigne, on en parle beaucoup en ce moment.
Ah oui ?
Oui, parce qu'ils ont un projet là, sur le territoire de Montaigne.
D'accord.
Pour faire revisiter les lieux.
C'est bien.
Ouais, un petit peu d'histoire, c'est bien.
Ah oui, oui. Non, moi j'ai visité la tour, j'adorais.
Ah ouais.
Oui, le seul truc, c'est que la tour est vide.
D'accord.
Pourquoi ? Parce qu'au moment où tu rentres dans sa bibliothèque, à Michel de Montaigne,
ouais.
Tu rentres dans sa bibliothèque. Alors, la caractéristique, c'est qu'il y a plein de citations en latin.
D'accord.
Gravées dans les poutres.
Ah ok.
Non, mais c'est tout le long des poutres, hein. C'est déjà la bibliothèque qui commence sur le bois. C'est gravé. Oui, c'est gravé.
Ah ben, je ne savais
donc
pas.
Ça, c'est assez émouvant quand même. Voilà. Ouais. Tu as aussi une de ces selles avec lesquelles il est parti à Rome. Des selles de l'époque. Hein.
Mm-hmm.
Et par contre, tous les livres ont disparu. Pourquoi ?
C'était des livres interdits.
Non.
Ah bon ?
Non. Il les a offerts.
Ah.
Il a offert la totalité de sa bibliothèque. À qui ? À la Boétie.
D'accord.
À la Boétie, ils étaient très amis. Donc voilà.
Et la Boétie,
habitait où ? Ah, mais si, c'est facile. Une grosse ville de Périgord.
Oh, mais une grosse ville de Périgord, Périgueux.
Presque.
Bah, Bergerac, non ?
Bon.
Oh.
Entre les deux. Entre les deux, enfin, je veux dire, entre les deux déformés, avec un bel angle droit.
Sarlat.
Exactement.
D'accord.
La grande place de Sarlat. Tu as la maison de la Boétie.
Ah, ok.
Oh, t'as même un panneau en pierre là, qui t'explique un petit peu un petit peu le,
Ah, c'est pour ça qu'on retrouve pas mal de rues de la Boétie en Périgord.
Et oui. Et oui, mais c'est pas. C'est dans une chanson aussi, il me semble qu'on chantait Montagne et la Boétie. Je sais plus qui le chantait.
Ouais, il faudrait rechercher. Voilà. Ouais.
Enfin, tous ces livres-là sont passés chez la Boétie. Après, que sont-ils devenus? Je ne sais. Je ne sais pas du tout. Mais dans tous les cas, quand vous allez donc au château de Montagne, vous pouvez visiter la tour, effectivement. Hein. Donc, évidemment, il y a plusieurs étages. Hein, l'endroit où il vivait, l'endroit où il s'alitait. Il y a un endroit où, dans sa chambre, dans sa petite chambre, tu as carrément une espèce d'ouverture qui fait passer le son. Et il pouvait assister à la messe depuis son lit.
Oh,
il y a une petite chapelle en bas. Ouais. Hein. Et tu l'as jamais visité?
Ah non, jamais.
En plus, ils font du super pinard là-bas. Je veux pas. ils font du très bon vin. Hein. Ouais. Donc voilà, ça a été tourné au château de Montagne. Non, mais alors, ils l'ont bien gardé secret. C'était vraiment bien gardé.
On a l'info juste au bon moment, en fait. Hein.
Après, tu peux faire rentrer toutes les équipes de télé que tu veux, de cinéma, parce que tu ne vois rien de l'extérieur, parce qu'il y a une énorme cour intérieure.
D'accord.
Ouais. Donc voilà un petit peu ce que j'ai appris dans la presse. Je l'ai appris, mais je l'ai appris dans la presse, là, aujourd'hui. Hein. C'est tombé dans le Sud-Ouest. Hein. Voilà un petit peu pour
Cocorico.
Voilà. Cocorico, donc si vous voulez visiter le château de Montagne, venez voir Cocorico.
Et voilà, et si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les tests ADN, eh bien, allez voir le film.
Hein. Tout simplement, voilà.
À mon avis, on ne sera pas déçus. Allez, notre rendez-vous que l'on va découvrir cette semaine à La Brèche avec Nathalie Portman. Tu en parlais tout à l'heure.
Voilà, sera le retour sur les écrans. Un petit peu de Nathalie Portman sur les écrans, entre autres, hein, et Julianne Moore, évidemment. Donc, May December, donc film américain d'1h57, une comédie dramatique de Todd Haynes. Où, au niveau des acteurs, on va retrouver évidemment Nathalie Portman, Julianne Moore, Charles Melton, Corey Michael Smith, Elizabeth Hugh, Gabriel Chung et Piper Curda. Donc, pour préparer son nouveau rôle, une actrice célèbre vient rencontrer celle qu'elle va incarner à l'écran, dont la vie sentimentale a enflammé la presse à scandale et passionné le pays 20 ans plus tôt. Alors, mes papiers que je perds. Pardon, désolé. Donc, au début du film, le spectateur fait confiance à Elizabeth, qu'incarne donc Nathalie Portman. Donc, c'est par elle qu'on fait la connaissance de Gracie, donc interprète Julianne Moore, et de son histoire. Puis on découvre comment Elizabeth utilise tous ceux qu'elle rencontre et notre confiance en elle s'en trouve ébranlée. C'est cela qui me séduisait, comme nous dit donc le réalisateur, dans ce projet. Confronter deux actrices que j'adore et mettre le spectateur dans une position instable dans laquelle il doit constamment réévaluer ce qu'il pense des personnages. Donc la signification du titre, alors May December, oui, alors écoute bien, tu vois, c'était une expression, parce qu'il y a une petite blague à la fin qui n'est pas piquée des vers. May December, c'est une expression qui désigne en anglais une relation où les deux partenaires ont une grande différence d'âge. May, December.
Ah oui, d'accord, j'ai compris. Ouais.
Interrogé au sujet du titre de son film lors d'une conférence de presse au Festival de Cannes 2023, où le film était sélectionné, Todd Haynes a plaisanté. Il dit, en France, on appelle ça un... tu vas voir trop. Un Macron.
Ah, d'accord. Très bien.
Un Macron, donc quand même, il fallait oser. Donc Todd Haynes donc, dirige pour la 7e fois Julianne Moore après Safe, Loin du Paradis ou alors I'm Not There et Le Musée des Merveilles. Librement adapté d'un sombre fait divers. Donc le couple formé par Julianne Moore et Charles Melton dans le film est inspiré par l'affaire Mary Kay, le tourneau, survenu en 97 aux États-Unis. Cette dernière était une professeure américaine qui alors qu'elle était âgée de 34 ans, est tombée enceinte d'un de ses élèves de 12 ans. Vilfualo. Alors, tu vas voir quand même l'histoire. Quand même. Elle a été condamnée à 6 mois de prison, dont 3 avec sursis et 3 ans de traitement pour délinquance sexuelle. Elle a ensuite violé sa probation et est retombée enceinte du même personnage, ce qui lui a valu 7 ans et demi de prison en 98. Comme quoi, la punition elle est sévère.
Ouais.
Sa peine purgée, elle a épousé donc, cet élève-là en 2005 et a élevé avec lui leurs 2 enfants. Donc, né pendant son incarcération. Le couple a fini par divorcer en 2019 et le tourneau est décédé l'année suivante des suites d'un cancer. Donc, le film n'est pas une reconstitution, on va dire, fidèle de l'affaire. Hein. Les personnages ne portent pas les mêmes noms que les protagonistes d'origine. Et Todd Haynes imagine l'irruption d'une comédienne dans la vie d'un couple. Néanmoins, l'inspiration est évidente et le principal concerné, donc Vilfualo, qui était l'élève, hein, désormais âgé de 40 ans, a partagé son mécontentement de ne pas avoir été consulté par la production. Et il dit... Je suis toujours en vie et en bonne santé. Si la production m'avait contacté, nous aurions pu travailler ensemble sur un chef-d'œuvre Au lieu de cela, ils ont choisi de reproduire mon histoire originale, a-t-il confié à Hollywood Reporter. Je suis offensé par l'ensemble du projet et par le manque de respect à mon égard. Moi qui ai vécu une histoire réelle, qui la vit encore. Mon histoire est loin d'être aussi simple que ce film. Donc c'est le film en fait, c'est sous l'impulsion de Nathalie Portman qui est tombée justement sur l'affaire ouais. Et qui a envoyé à Todd Haynes le scénario de Sammy Birch. Et le réalisateur a tout de suite été séduit par la façon dont il aborde les sujets potentiellement explosifs avec une sorte de patience observatrice qui permet d'approcher les protagonistes de cette histoire avec une subtilité, on va dire, peu commune. Son écriture était empreinte d'une ambiguïté morale et narrative excitante pour le spectateur. Voilà un petit peu pour vous éclairer sur donc May December.
Voilà.
Et donc, avoir la brèche cette semaine.
Voilà, avec deux bonnes actrices, en tout cas Nathalie Portman et Julianne Moore.
Ouais, énorme.
Qui, à mon avis, vont crever l'écran, j'en suis sûr. Très bon moment de film. On le verra en version sous-titrée, je crois, aussi, Pascal, hein, ce rendez-vous. Parce que je vois qu'il est en version originale sous-titrée.
Absolument. Oui, oui, oui. Pas toujours, hein, tu penses bien.
On va revenir sur notre rendez-vous que nous allons pouvoir découvrir cette semaine en hommage à l'artiste Dali. Et Dali avec plusieurs A cette
plusieurs
fois-ci.
Plusieurs A, il y a 6 A. Je les ai comptés.
T'as compté.
Mais oui, parce que quand tu fais la programmation, t'as intérêt à pas te planter. Quoi.
Ouais.
C'est vraiment à la lettre près. Donc Dali, le dernier film de Quentin Dupieux, c'est une comédie hein, avec Anaïs de Moustier, Gilles Lelouch, Édouard Baird, Jonathan Cohen et Pio Marmaille.
Voilà, c'est pas un biopic. Hein.
C'est surtout pas un biopic. C'est ce que vous voulez. Il ne voulait pas faire un biopic, Quentin Dupieux. Donc c'est l'histoire d'une journaliste française qui rencontre Salvador Dali à plusieurs reprises pour un projet de documentaire. Alors déjà, juste pour vous éclairer un petit peu sur le film et la projection, donc le mercredi 7 février à 20h30, hein, il y aura un ciné-discussion donc autour de Dali et de l'œuvre de Quentin Dupieux on va dire de l'univers de son cinéma à lui, hein, qui est quand même assez particulier, Quentin Dupieux, c'est quand même assez loufoque.
Ouais, c'est ça, ouais. C'est décalé. Hein.
C'est assez décalé, justement. Oui, c'est pas plus mal, c'est bien aussi d'apporter un petit peu ces genres un petit peu nouveaux. Quoi. Mais effectivement, il ne voulait surtout pas faire un biopic. Hein. Donc, quand Quentin Dupieux déclare à propos du film, donc, pour écrire et réaliser cet hommage, je suis entré en connexion avec la conscience cosmique de Salvador Dali et je me suis laissé guider, les yeux fermés. Voilà comment ça commence très fort. Donc, le maître m'a tout d'abord ordonné de convoquer plusieurs comédiens brillants pour interpréter son personnage, trop complexe pour un seul homme. Nous avons ensemble rendu visite à Buñuel pour lui subtiliser quelques images et quelques idées. Il m'a ensuite conduit de force dans les tréfonds de ses angoisses morbides et dans ses rêves pour m'orienter. Et puis j'ai fini par reprendre le contrôle de mon film de justesse. Pour simplement en faire une déclaration d'amour à cet homme. Dali le disait lui-même, sa personnalité était probablement son plus grand chef-d'œuvre. C'est vrai, c'est un sacré bonhomme. Mon film raconte modestement cela. Alors évidemment, c'est un non-biopic. Hein. Dali est tout sauf un biopic de Salvador Dali. Le sujet du film était l'impossibilité justement de raconter l'artiste. Et Quentin Dupieux souligne, Dali est partout et nulle part. Quand j'ai rêvé de ce film, j'ai très vite senti qu'il ne fallait pas faire un film sur Dali, mais avec Dali. Essayer de chercher une forme de liberté que son travail m'inspire. Raconter Dali à l'école de peinture, expliquer ses frustrations, ses ambiguïtés, filmer l'artiste au travail, ça ne m'intéresse pas. J'aime presque plus Dali l'homme, le génie de la communication que Dali l'artiste. J'aime la manière dont il a constamment cherché à échapper à son image en jouant avec elle. L'hommage du film à Dali, c'est ça. Un non-film sur Dali pour un type qui n'aurait jamais voulu qu'on le mette dans une boîte. Donc, le film, quand même... Pourquoi Quentin Dupieux a choisi ce drôle de personnage pour faire un film quand même,
parce que c'est quand même osé s'attaquer à un monument. Ouais.
Donc, pour Quentin Dupieux, Dali est une utopie qui a disparu, il précise. À la fois comme homme et comme artiste, quand je pense à lui, je revois un monde où l'art est au centre, où les artistes sont au cœur de la société. On les voit sur les plateaux TV, dans les journaux. Ils ne craignent pas d'être provocants, absurdes, gênants même. Dali disait parfois des trucs complètement débiles. On haussait les épaules et on passait à autre chose. Je le montre dans le film, mais l'art a disparu de notre quotidien. Avec Dali, il a essayé d'imaginer un dialogue entre le cinéma et l'artiste et de lui rendre un hommage modeste, mais fou et libre. Donc le film est nourri par le cinéma de Louis Buñuel, mais aussi par celui des Monty Python. Tu vois qui c'est ?
Oui. Mmh.
Et Quentin Dupieux explique. Il y a une liberté dans leur film qui m'a toujours réjoui. C'est de la comédie à la fois exigeante et complètement débile. Comme chez Dali et Buñuel, il y a chez eux la recherche d'un langage nouveau, le refus de la bienséance, le goût de la provocation, mais aussi une forme de tendresse, d'humanité qui me touche. 5 comédiens prêtent leur trait à l'artiste espagnol. Évidemment, ils seront 5 à se succéder. À l'origine, il devait y avoir encore plus d'interprètes, mais certains d'entre eux ont spontanément quitté le projet. De manière très naturelle, presque, ils ont senti qu'ils n'avaient rien à apporter à Dali. Que quelque chose ne fonctionnait pas. Que ça coinçait, confie le réalisateur. Donner le même rôle à plusieurs acteurs permettait à Quentin Dupieux de briser l'idée du biopic. Dans ce genre de film, tout le monde, comme il nous dit, attend la performance. Comment un tel va jouer tel ou tel mec que tout le monde connaît? Ça peut être bluffant parfois, mais 10 minutes, pas plus. Et après, on fait quoi? En mélangeant Dali et en proposant à plusieurs comédiens de le jouer, ça reste ludique. On ne peut pas se lasser. On est toujours surpris. Eh bien, j'espère bien, parce que vraiment, c'est un sujet pas simple. Et c'est quand même assez loufoque au niveau du scénario. Moi, ça me plaît bien.
Oui, avec Edouard Baird qui notamment occupe le rôle principal.
Voilà. Ils sont plusieurs à jouer.
Ils sont plusieurs, qui ma foi retranscrit un petit peu ce côté génie de Dali avec son accent, son phrasé assez étonnant.
De Dali ?
Oui.
Ouais, je me souviens des images des années 70, effectivement, où tu le voyais intervenir dans certaines émissions et tu t'attendais à chaque fois à dire « Mais qui est-ce qui va nous faire encore ?» Effectivement, tout le monde était un petit peu sur l'expectative, tu vois, c'est là, qu'est-ce qu'il va faire ? Et voilà, c'était justement la grandiloquence de ce personnage-là, un grand artiste. Bon, après, je suis pas forcément fan de ses peintures, mais voilà, c'est quelqu'un qui débordait d'imagination.
Il y a un super musée à voir, la maison Dali, en Espagne, là. Je crois que c'est à Figueres.
Oui.
Figueres.
Oui, je crois que c'est là, ouais.
Ouais. Pas très, très, très loin de la frontière française, en fait. Hein.
Oui, c'est juste de l'autre côté, oui.
Ouais. Sur la Costa Brava.
Voilà.
On peut visiter le musée Dali. Alors, on va écouter un extrait de la bande-annonce de ce film Dali, à voir cette semaine sur les écrans.
Maître, on peut faire une pause un peu, là?
Pff, putain, quel enfer!
Mais ça va pas, la tête? T'es fou de le déranger comme ça, tu sais qui c'est?
Dali est probablement...
On est là!
Le seul artiste encore vivant sur cette planète.
La caméra, énorme ou gigantesque?
Moteur!
Il y a une chose que je déteste encore plus que les enfants, c'est le dessin des enfants. Ça, je ne peux pas les supporter.
C'est moi, un plus vieux.
Un vieux, vous?
Oui, très vieux, très laid. En chaise roulante.
Alors voilà, ça commence en enfer.
En enfer?
C'est inadmissible.
Pablo !
Voilà ! Monsieur Dali, s'il vous plaît !
Mais je ne vous entends pas. Là, en ce moment même, il y a une pluie de chiens morts. Oh. Là, c'est Dali.
Je ne voulais pas vous décourager. Vous avez l'air tout excité par le projet. Mais entre nous, une boulangère qui veut faire un documentaire sur un peintre...
Voilà, Dali à voir cette semaine sur les écrans de La Brèche, Pascal. Je pense qu'on va également apprécier.
Ouais, c'est pour se marrer, oui.
Bon moment.
Quand tu as du pieu, tu vas pour te marrer déjà, direct. Ouais, tu sais que tu vas pas pleurer. Ouais. Et voilà, c'est quelqu'un qui est très très inventif, on va dire, déjà dans son cinéma, mais surtout au niveau des personnages, tout ça. C'est un certain cinéma, hein, Quentin Dupieux.
Eh bien, c'est noté, Pascal, pour ce rendez-vous et la sélection de la semaine. Alors, tu évoquais il y a quelques jours dans une autre émission sur Radio Grand Air, notamment Captive, qu'on va pouvoir voir cette semaine sur les écrans. Alors, c'est un univers assez particulier. Hein. On va aller dans le monde psychiatrique.
On va aller sur le site donc de l'hôpital de la Salpêtrière.
Le plus gardé au monde ?
Le plus gardé au monde.
Non.
Je sais pas, je ne saurais
le
dire.
Le plus surveillé.
Je ne saurais dire, mais avant, oui, effectivement.
Mais quand on y rentre, on n'est pas sûr d'en sortir.
Voilà, à l'époque, alors, au 19e siècle.
C'est ça, bon, oui, je précise, oui.
Voilà. Si tu dis ça maintenant, ceux qui rentrent à l'hosto, ça ne va pas l'air. Non, avant, c'était un hospice où on enfermait un petit peu tout le monde. On commençait par les prostituées, des gens qui voulaient se débarrasser de leurs femmes. Voilà, contre un peu d'argent, c'est assez simple. Hein. Et on les entassait là-dedans. Et puis le traitement n'était pas terrible. Il faisait très froid, c'était vraiment inconfortable. J'avais parlé un petit peu des conditions de je crois que c'était la semaine dernière, j'en avais parlé un petit peu. J'avais parlé de la prison de la Réole aussi.
Absolument, ouais.
Et voilà, on se rend compte un petit peu des conditions d'incarcération qui étaient absolument abominables à cette époque-là. Hein. Donc, Captive, donc le dernier film d'Arnaud Despalières, hein, un film français d'une heure cinquante, c'est un drame historique. Hein. Alors, on va retrouver Mélanie Thierry, il y a une grosse distribution là.
Oui, exact. Ouais.
Josiane Balasko.
Oui.
Marina Foïs.
C'est la maître des lieux, hein, Josiane Balasko.
Balasko, entre autres, oui. Ouais. Yolande Moreau, Carole Bouquet.
Exact, ouais.
Miss Ming, Dominique Fraud, Agnès Berton. Donc, nous sommes à Paris en 1894. Donc, et qui est Fanny qui prétend s'être laissée enfermer volontairement à l'hôpital de la Salpêtrière, cherchant sa mère parmi la multitude des femmes, on va dire, convaincues de folie, entre parenthèses, Fanny découvre une réalité de l'asile tout autre que ce qu'elle imaginait, ainsi que l'amitié inattendue de compagne d'infortune. Le dernier grand bal de la Salpêtrière se prépare. Politiques, artistes, mondains s'y presseront. Dernier espoir d'échapper au piège qui se referme.
Alors là, c'est section des femmes. Il n'y a que des femmes qui sont...
Ah oui, c'était pas mélangé avec les hommes, hein, ça c'est sûr.
Oui, c'est
ah
ça,
oui,
ça, ouais, non, c'était vraiment... Hein, c'était vraiment
oui, c'était séparé. Hein. Donc, la naissance du projet, donc en janvier 2019, le joint producteur Jonathan Blumenthal a proposé à Arnaud Despalières et à la scénariste Christelle Berthevas de réfléchir à un film sur l'histoire du bal des folles. Parce qu'en fait, il s'agit de ceci aussi, hein, le bal des folles, hein, qui était donné une fois par an, donc de la Salpêtrière. Il avait découvert cet événement par hasard sur Wikipédia et pour des raisons personnelles, désirait produire un long métrage à ce sujet. Et le réalisateur confie. Cette histoire était pour nous une totale découverte. C'était un an avant la parution du roman de Victoria Mas qui a contribué à le faire connaître. Mais nous avons immédiatement senti l'occasion d'un film sur la condition des femmes, et pas seulement au XIXe siècle. En commençant nos recherches, nous nous sommes vite enthousiasmés à l'éventualité d'un film exclusivement féminin. Donc, Arnaud Despalières et Christelle Berthevas avaient fini d'écrire une première version de leur scénario lorsqu'ils ont entendu parler de la sortie prochaine du roman donc Le bal des folles de Victoria Mas, qu'ils ont préféré ne pas lire. c'est cocasse. Ouais. Le metteur en scène explique « Puisque nous avions déjà les grandes lignes de notre scénario, notre producteur n'a pas jugé pertinent de prendre les droits du livre. » L'éditeur est donc allé voir un autre producteur, ce qui a suscité un projet parallèle. L'idée ne nous était pas agréable, mais nous sommes restés concentrés sur notre projet. Donc, nous voulions donc raconter le quotidien de ces femmes pauvres enfermées à la Salpêtrière selon des critères qui relèveraient aujourd'hui de l'arbitraire le plus pur à l'époque du dernier bal des folles qui eut lieu en 1894 après la mort de Charcot. Bal atypique de cette fin du 19e siècle à Paris, où l'on aimait s'encanailler dans les bouges à voyous, visiter en famille les indigènes des colonies parqués dans des eaux humaines, ça c'est vrai.
D'accord.
Aller voir pour rire les fous derrière leurs grilles, qu'une poignée de jeunes médecins progressistes décident d'y mettre fin, et c'est le 20e siècle qui s'annonce. Le film se situe à ce moment de bascule.
D'accord.
Donc Arnaud Despalières n'a pas tout de suite pensé à Mélanie Thierry pour le rôle de Fanny. Le cinéaste avait d'elle l'idée d'une actrice essentiellement moderne et ne l'imaginait pas en femme bourgeoise de la fin du 19e. Mais apprenant l'annulation d'un film qu'elle devait tourner, quelqu'un nous a suggéré de nous rencontrer. Et à l'issue de cette rencontre, nous avons décidé de faire le film ensemble. Venant de familles de cinéma différentes, nous nous intimidions. Pendant la préparation, nous nous observions, chacun voyant en l'autre un animal curieux. J'avais beau lui avoir suggéré quelques lectures et prendre des cours de maintien, de danse ou de chant, je sentais que je ne la mettais pas sur la voie. À quelques jours du tournage, j'ai provoqué l'incompréhension de la costumière en choisissant pour Fanny une simple rose de location, sombre et en mauvais état, à la place d'une somptueuse création colorée sur laquelle son équipe travaillait depuis des mois. J'ai imposé cette robe d'époque comme son unique costume, choix d'autant plus déraisonnable que nous ne l'avions pas en double, précise le cinéaste. Et il ajoute... Cette simple robe bleue, sombre, à manches gigots, conférait à Mélanie une silhouette d'époque parfaite, rappelant les autochromes d'Heinrich Kuhn. Alors, c'est vrai qu'il est...
D'accord.
Il est très attaché à ça, oui, de ces peintures-là. Donc, que j'avais tant regardé en écrivant. Ma lubie, la dernière minute, a intrigué Mélanie. Mais une actrice aime qu'un réalisateur sache ce qu'il veut, et mieux que personne, sait combien le choix d'un costume est décisif dans l'élaboration d'un personnage. Mélanie a compris ou senti que dans cette robe, je la voyais en Fanny pour la première fois, et je crois qu'elle a commencé à se sentir en confiance ce jour-là. Puis le tournage a commencé, et là, c'est moi qui ai compris quelque chose. Dès le premier plan sur Mélanie, David Chizalé, donc qui est le chef opérateur, et moi, nous sommes regardés comme si nous étions témoins d'un phénomène paranormal. J'appelle ça la cinégénie, ou la présence. Mélanie irradiait dès que la caméra l'a filmée. Quel très beau compliment.
Absolument, ouais. Et pas forcément évident. justement à jouer cet univers si particulier.
Si particulier, ouais, si c'est carcéral, on va dire. Hein. Mm-hmm. Alors, la Salpêtrière, à la fin du 19e siècle, était constituée, écoute bien, hein, tu vois, c'était quand même une petite ville à côté de Paris, hein, de 32 hectares en plein Paris.
Ah, c'est grand.
32 hectares avec des parties non urbanisées. Il y avait des potagers, des fermes avec des animaux. Il fallait nourrir tout ce petit monde. Hein. C'était d'accord, quand même des milliers de personnes. Ouais. Hein. Des pavillons isolés et les bâtiments d'hôpitaux habituels. À partir d'archives photos, Arnaud Despalières et son équipe ont cherché différents endroits en Île-de-France, Normandie et Hauts-de-France, pour y poser leurs caméras. Et le cinéaste raconte « Dans une abbaye normande désaffectée, nous avons trouvé le dortoir et la petite maison de Camomille, qui est jouée par le Yolande de Moreau. Dans l'Oise, au Haras de Compiègne, le bureau de Bobotte et sa ruelle, la buanderie, la réfectoire et le parc central. » À Paris, au Kremlin-Bicêtre, les extérieurs du bal et la ruelle au fiacre. Et dans un lycée parisien, la salle de bal. Comme le film se construit sur le regard de Fanny découvrant les lieux de façon fragmentaire, cela a permis d'associer, par le montage, des liens éloignés dans la réalité. Nous avons pu ainsi reconstruire notre grande Salpêtrière imaginaire. Nous avions extrêmement peu de moyens pour la décoration et l'équipe déco a vraiment fait des miracles. Voilà un petit peu pour vous éclairer sur les conditions du tournage et les décors. Hein.
Eh bien, on va justement découvrir ensemble un extrait de ce film qui s'appelle Captive et à voir cette semaine sur les écrans de La Brèche.
Je suis entrée ici volontairement. Elle a reçu son traitement d'entrée, la nouvelle. Je repasse ce soir.
Et l'eau va être glacée ?
Pourquoi souffrez-vous ? Je suis pas malade.
Ah, oui, c'est vrai. J'oublie toujours. Ici, aucune femme n'est folle.
Je cherche ma mère. Elle a été internée ici il y a des années. 29 ans exactement. Elle aurait 68 ans.
T'es entrée pour ça ?
De la folie. Je t'ai fait entrer aux archives. Je commencerai par là, si j'étais toi.
Toujours là où il faut pas, celle-là.
Mesdames, comme chaque année à la même saison, se tiendra notre bal costumé.
À condition que vous m'aidiez à préparer ce bal, je vous sors d'ici. Au premier manquement, je vous y ramène.
Vos asiles sont des abattoirs! Des cavernes de voleurs où on dévalise les gens!
Je vais avoir besoin de votre aide.
Et tu peux faire quoi si tu la retrouves ?
Je vais le faire sortir avec moi.
Voilà, personne Captive, à voir sur les écrans de La Brèche. Et voilà, on va rentrer dans cet univers, je le disais, si particulier.
Sombre.
Sombre.
Un film sombre, oui.
J'avais fait un petit peu le parallèle, hein, rien à voir, mais c'était un petit peu ça aussi dans Shutter Island. Avec
Shutter Island, ah oui, oui, oui.
Où on rentre dans un univers assez fou, assez dingue. On ne sait pas qui est fou et qui est ça en fait.
Exactement. Et j'ai failli le revoir il y a pas très longtemps, mais comme je connaissais pas trop le travail d'Emma Stone, je suis allé voir un film qu'elle a tourné il y a quelques années, La Favorite.
Ah oui, d'accord.
La Favorite. Voilà, c'est parce que c'est là que j'ai vraiment découvert Emma Stone. Et qui est une grande actrice quand même. Et le film est pas mal, hein. Le film récure bien. Hein. C'est l'histoire la favorite de la reine d'Angleterre, avec tout ce que ça comporte, on va dire, de devoirs.
Captive,
et de déconvenues.
Voilà, à ne pas rater cette semaine avec, là aussi, belle prestation d'artistes. Mélanie Thierry, Josiane Balasco.
Marina Foyce.
Marina Foyce.
Yolande Moreau.
Aussi, voilà.
Ah, oui.
Et Carole Bouquet, hein, on le rappelle.
Carole Bouquet,
son
j'oublie.
Retour
sur les
écrans.
Oui, exact.
Alors on enchaîne avec une autre sélection de cette semaine à La Brèche. Pauvre créature.
Alors, dernière.
Est-ce qu'on va voir des créatures ?
Bien sûr.
D'accord.
Dieu, tu vas avoir une belle créature, elle s'appelle Emma Stone.
C'est toujours les très agréable.
Disney, oui, alors les studios Disney, voilà, ils nous sortent. Donc, Pauvre créature, qui est une comédie dramatique. Donc, c'est un film anglo-irlando-américain de 2h21 de Yorgos Lanthimos. Alors, ce film-là a été ovationné. Ce film-là a reçu 31 nominations.
31 ?
Oui, oui.
Ah ouais ?
Trois prix. Trois prix dont le Lion d'Or de cette année, ouais, la Mostra de Venise. Voit, ouais. Il a décroché le Lion d'Or, Yorgos Lanthimos. Et le Golden Globes de la meilleure comédie musicale et la meilleure actrice dans une comédie pour Emma Stone. Donc ce film-là a fait quand même beaucoup de bruit.
Effectivement.
Ah, donc on va retrouver au niveau des acteurs Emma Stone, Mark Ruffalo, Willem Dafoe, Rami Youssef, Christopher Abbott, Suzy Bemba, Jared Carmichael et Catherine Hunter. Donc Bella est une jeune femme ramenée à la vie par le brillant et peu orthodoxe docteur Godwin Baxter. Sous sa protection, elle a soif d'apprendre. Avide de découvrir le monde dont elle ignore tout, elle s'enfuit avec Duncan Wonderburn, un avocat habile et débauché, et embarque pour une odyssée. Et une odyssée à travers donc les continents. Imperméable aux préjugés de son époque, Bella est résolue à ne rien céder sur les principes d'égalité et de libération. Alors, ça nous fait penser de loin un petit peu à qui ? À Frankenstein. Oui. Je pense qu'elle est quand même plus sexy, Emma Stone. Donc, pauvre créature adapte le roman du même nom d'Alsace Dyer dans Grey, apparu en 1992. Donc. Le réalisateur donc Yorgos Lanthimos désirait en faire un film depuis longtemps et a même été en contact avec l'auteur aujourd'hui décédé. Et comme il nous dit, il y a d'emblée quelque chose de visuellement frappant et de dense, qu'il s'agisse des thèmes qu'il aborde, de son humour, de la complexité des personnages et de la langue. Je n'avais jamais rien vu de tel auparavant et j'ai été très impressionné. Alasdair Gray était peintre. Il a illustré son texte qui, globalement, évoque la liberté d'une femme dans la société. Un tel matériau ouvrait vraiment la voie pour raconter une histoire comme celle-ci. Andrew Gray, le fils de l'écrivain, déclare « Mon père et Yorgos se sont rencontrés à Glasgow et ont fait le tour de la ville en visitant les lieux associés au roman. Alors qu'il avait auparavant refusé d'autres offres d'adaptation, il a été sensible au fait que Yorgos ait pris le temps de le rencontrer personnellement. C'était le moyen de communication qu'il préférait, marcher et montrer la ville dans laquelle il a vécu toute sa vie. Après cette rencontre, mon père a acheté le DVD de Canine, qu'il a beaucoup apprécié. Et je crois que c'est sur ce film qu'il a fondé son opinion sur les talents de Yorgos. » Donc c'est un film politique et féministe. Hein. Donc le scénariste Tony McNamara déclare « L'histoire du film est peut-être plus pertinente aujourd'hui qu'au moment où nous avons commencé à l'écrire. L'idée du patriarcat et des jeunes femmes donc, qui se libèrent de leurs conditions d'objets a pris une ampleur nouvelle dans la société. J'espère que cela transparaît dans le film. Je veux que le public comprenne qu'il s'agit d'un film politique et qu'il en reconnaisse les aspects féministes et sociaux », ajoute Andrew Gray, le fils d'Alasdair Gray. L'objectif du roman comme du film est de prendre le monde meilleur, en refusant les mots que nous sommes venus à considérer comme normaux. Donc voilà un petit peu pour vous éclairer sur cette grosse production, donc pauvre créature que nous aurons donc cette semaine à la brèche, un dernier film de Yorgos Lanthimos.
Voilà, donc on pourra le voir en version sous-titrée.
Et en version originale.
Exactement, 2h21. Hein.
2h20. 21. 2h20. Oui, voilà.
Pour être tout à fait précis. Très bien, mais pour cette sélection de la semaine, on a bien noté ce rendez-vous, Pascal, et on y sera en tout cas pour découvrir tout cela. On va revenir sur un acteur qui évidemment forcément connu, vous l'avez certainement croisé ici ou là, peut-être solo ou solo.
Ah oui, mais carrément. Ah oui.
Je te passe un extrait de la BO du Grand Bleu, évidemment, puisqu'on va parler de Reno.
On va parler de Jean Reno.
Jean Reno, voilà.
Oui.
Qu'on a découvert dans Le Grand Bleu, mais pas que, hein, puisqu'il a joué dans beaucoup de films.
Dans combien de films il a joué ?
Alors, il a beaucoup tourné aux États-Unis. Combien de films ? Oh, je dirais 340.
Ouais, quand même, mais dis donc, en 46 années de carrière. Oh, il aurait fait que ça, il aurait même tourné la nuit, en dormant. Oh. 107 films.
107, ouais, c'est déjà pas mal, ouais.
Jean Reno, on va parler de sa filmographie. C'est un acteur français qui est né le 30 juillet 1948.
Ah ouais.
À Casablanca, au Maroc.
Ah oui, non, il n'est pas du tout de Corse. Hein.
Mais carrément pas. Parce que tu crois qu'il est de Corse. Ah oui. C'est l'enquête Corse qui t'a mis dedans, c'est ça
ouais.
C'est ça.
C'est ça. Non, mais c'est vrai que Jean Reno, juste avant de parler de sa carrière, etc., je pense que Jean-Luc Besson a été un petit peu. Celui qu'il a lancé, en fait. Hein,
qu'il a lancé peut-être. En tout cas, il a commencé en 78, hein, dans un film de Raoul Ruiz. Hein. Ah ouais. Je crois qu'il commence quand même assez tôt. Hein. Pour finir, donc il est né à Casablanca au Maroc. C'est un jeune homme de 75 ans, mine de rien.
Ah oui, le temps passe. Il commence à.
Donc Jean Reno, c'est l'âge, ouais. 46 années de carrière. Ouais. 107 films. Combien de prix? Voilà, j'étais surpris. Un prix, 12 nominations. 12 nominations.
Ouais.
Un prix.
Bah oui, mais je me doutais qu'il n'y avait pas, au niveau des prix, il n'y avait pas grand-chose.
Exactement.
Non, non, oui, c'est décevant. Chose. C'est décevant.
Il n'y a pas grand-chose.
Ah, c'est pas le seul. Hein.
Un prix.
Ouais.
Et tu vois, et quel prix, tu vas voir. Il a eu le Gérard du cinéma.
Ah, en plus. D'accord.
Il a eu le Gérard du désespoir masculin dans Comme un chef.
Ouais.
Autant te dire que c'est pas gentil du tout.
Ouais.
Alors, sans cette film, évidemment, j'en ai sélectionné quelques-uns, vous pensez bien. Donc, il a commencé vraiment en 78 dans L'hypothèse du tableau volé de Ralph Ruiz avec Daniel Grimm et Bernard Daillancourt. En 81, tu vas voir, il jouera dans Les Bidas aux Grandes Manœuvres.
C'est ouais. Vraiment chouette. J'ai raté le truc. D'accord.
Avec Michel Galabru et Betty Beckers. En 85, un film de Luc Besson, Fastoche.
Ah bah,
encensé par la critique.
Alors c'est non, c'est Nikita, non.
C'est ce qui a lancé Luc Besson dans tous les cas, je pense. Ah
bah, hein. Le Grand Bleu alors.
Ah non, ah non,
bah,
non
le Grand Bleu, c'était un peu après.
Avec Christophe Lambert, et Isabelle Adjani, ce Fastoche.
Ah oui, Subway.
Il y en a qui ont buzzé, ils doivent buzzer chez eux.
Subway, non.
Exactement.
Ah oui.
Subway, bien sûr.
Ouais.
Trois ans plus tard.
Ah ben bah, le Grand Bleu.
Le Grand Bleu en 88, bien sûr, de Luc Besson avec Jean-Marc Barr et Rosanna Arquette.
Et oui, exact. Très très bon film.
Deux ans plus tard, toujours un film de Luc Besson.
Oh ben c'est Léon. Nikita.
Et c'est Nikita, ouais, parce avec Chiqui Cario, Jean-Hugues Anglade.
Oui, c'était déjà Léon Nettoyeur, et après il était Léon tout court.
Rappelle-moi le nom de l'actrice.
Nathalie Portman.
Non, dans Nikita.
Ah, mais Anne Parillo.
Anne Parillo, voilà. Ça me sortait de l'esprit.
Si tu nous écoutes, Anne, on te salue.
Oui, bien sûr. Donc Nikita en 90, 93. Gros carton au cinéma. Alors personne s'y attendait, un film de Jean-Marie Poiré.
Oh,
Fastoche, trop fastoche.
Ah non, mais
un gros carton, personne ne l'attendait. Les salles se sont remplies, ça a été du délire total. J'étais dans les salles.
De Jean-Marie Poiré.
Ouais.
Les Visiteurs.
Ah, exactement, oui, les Visiteurs. Christophe Clavier, ouais. Valérie Le Mercier et tout le monde.
Exact.
94, là évidemment. C'est vrai qu'il enchaîne les films, mine de rien, Jean Reno. Hein. Luc Besson, un film de Luc Besson, 94, tu l'as dit tout à l'heure, avec Gary Oldman.
Ah, bah c'est Léon.
Nathalie Portman, bien sûr,
ouais.
C'est Léon.
Ouais.
En 96, un film de Francis Weber avec Patrick Bruel et Harrison Lowe.
Oui, Jaguar. Ouais.
Le Jaguar.
Oui, c'est vraiment
c'était
la,
bonne.
La semaine
on en
dernière,
parlait
on
la
en
dernière
parlait.
Fois, absolument.
Ouais.
Et là, effectivement, on le voit basculer chez les Ricains, tu sais, dans un film de Roland Emmerich en 98, avec Mathieu Broderick.
Ah oui,
et Maria Pitillo. Le gros dinosaure, mais ça s'appelle.
Ah oui.
Godzilla.
Ah oui, Godzilla.
Il joue dedans. En 98, c'est ça qu'il a pas mal tourné. Les Visiteurs 2. Les couleurs du temps.
Le retour.
Toujours Jean-Marie Poiré, mais là avec Muriel Robin.
Ouais.
Il est toujours question de clavier. En 2000, un film de Mathieu Kassovitz avec Vincent Cassel et Dominique Sanda. Les Rivières Pourpres.
Très bien. Le commissaire Niemann.
C'est possible, je ne l'ai pas retenu. En 2004, voilà, c'est fastoche. Un film d'Alain Berberian avec Christian Clavier et Katrina Amrino.
Oh, l'enquête corse.
L'enquête corse, oui,
j'adore.
Oui, qui a très bien fonctionné d'ailleurs.
J'adore, ouais.
En 2006, un film de Ron Howard.
Mm-hmm.
On en a parlé aussi avec Tom Hanks et Audrey Tautou, c'est fastoche. Da Vinci Code.
Ah ouais,
oui.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais là, il jouait le méchant, là.
Oui.
Ah, il jouait le traître.
En 2009, un très bon film de Rose Bosch avec Mélanie Laurent, Gad Elmaleh et toute une pléiade d'acteurs sur une page noire de l'histoire de France. Je crois que ça s'est passé en 41.
Ah oui, très bien. Il joue le rôle de médecin d'ailleurs, tiens, dans ce film-là.
Ça se passe à Paris.
Absolument.
Au Valdiv.
Au Valdiv, là. Ouais. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps en plus. J'ai plus le nom.
La rafle.
Ah oui, la rafle, ouais.
La rafle.
Oui, il jouait le rôle de médecin, ouais.
C'était horrible, la rafle du Valdiv.
Ouais.
Je crois qu'il y a 3 000, entre 3 000 et 4 000.
Histoire vraie, hein.
Voilà. Ouais. Heureusement, les services de police français ont devancé un petit peu cette rafle-là et ont et on fait passer un petit peu le mot à ceux qui voilà, des gens qui ont été sauvés ce jour-là, dans tous les cas. Mais effectivement, oui, d'ailleurs. Et donc voilà, La Rafle, donc en 2009. Voilà un petit peu pour vous éclairer sur certains films donc, dans lesquels a joué Jean Reno. Deux grands films dedans, quand même, mine de rien, qui ont marqué l'histoire. Oui, Le Grand Bleu.
Oui, il a joué dans pas mal de films et aussi des films assez durs. Donc on le voit dans des rôles, on va dire, à la fois plus ou moins comiques et puis des rôles relativement sérieux aussi. Jean Reno, c'est un artiste.
C'est sûr, quand tu vas dans Léon, le nettoyeur, ouais. C'est effectivement.
Et puis avec une présence.
Il y a une carrure aussi. Hein.
Ouais.
Je sais pas combien il fait de haut, mais il a culminé à 2 mètres, je pense.
Ouais. Alors Jean Reno.
D'où viens-tu? Où vas-tu?
Du Maroc.
Du Maroc, exactement. Né de parents andalous.
Ah oui, d'accord.
Ayant fui en Afrique du Nord pour échapper au franquisme.
D'accord.
Jean Reno naît Juan Moreno.
Ouais.
Tu vois un petit peu, tu vois un petit peu le raccourci.
Ouais.
Suit les cours du conservatoire de Casablanca avant de s'installer à Paris en 1970. Il fait ses débuts au cinéma en 78 en tant que figurant dans L'hypothèse du tableau volé de Raoul Ruiz. Alors évidemment, c'est là, son premier rôle, c'est faire de la figuration, mais c'est comme pas mal d'acteurs d'ailleurs, entre parenthèses. Sa rencontre en 1980 avec Luc Besson, alors premier assistant sur Les Bidasses aux grandes manœuvres.
Ah oui.
Besson est assistant, s'avère décisive. Le réalisateur l'engage pour L'Avant-dernier en 81. Mais c'est pas Le Dernier Combat, donc c'est L'Avant-dernier, le film. En 81, un court-métrage qui préfigure. Voilà. Le Dernier Combat, tourné en 83.
Ouais.
Mais je l'ai pas trouvé dans ma liste, ce film-là. C'est pour ça que c'est un moment, ça m'a fait bugger. Donc Luc Besson lui confie ensuite un petit rôle dans Subway en 85 avant de le retrouver dans Le Grand Bleu en 88 et Nikita en 90 et d'en faire le héros de Léon en 94. S'orientant à l'aube des années 90 vers la comédie populaire, Jean Reno entame une fructueuse et lucrative collaboration avec Christian Clavier, lui donnant la réplique à 5 reprises dans L'Opération Cœur de Bif, que je n'ai pas cité, en 91. La saga moyenâgeuse des Visiteurs, Les Visiteurs, donc le premier, Les Visiteurs 2 et Les Visiteurs en Amérique, qui a été un fiasco, entre parenthèses.
Oui, le 3 n'a pas très bien marché.
Ah, ça a plombé les Américains. Ouais. Et l'enquête corse, oui, c'est un projet américain, hein, les Visiteurs en Amérique.
Ouais.
C'était une volonté américaine. Hein. Il a un peu fait plonger la Gaumont, d'ailleurs, ce coup-là. Mais oui, tu peux pas faire transposer le Moyen-Âge aux États-Unis, c'est compliqué pour les Américains. C'est pas qu'ils comprennent pas, mais ils sont pas dedans, quoi. Tu vois,
ouais, c'est
voilà. Lui donnant donc la réplique à 5 reprises dans l'opération Cœur de Bif en 91, donc la saga moyenâgeuse dans Les Visiteurs en Amérique et l'enquête corse en 2004, adaptation de la célèbre BD de Pétillon. Je ne connaissais pas.
Exact. Ouais.
Faisant figure de grand balèze et de dur à cuire dans les films La Tandem, il a pour partenaire de jeu Patrick Bruel dans Le Jaguar en 95 et Gérard Depardieu dans Tais-toi en 2003, deux longs métrages signés Francis Weber.
Bah, je l'ai vu aussi avec un acteur américain, parce que je disais, il tournait beaucoup aussi avec les États-Unis.
Oui, oui.
Et Ronin, je crois, le film Ronin, c'est un très bon film avec De Niro.
Oui, exact. Je ne l'ai pas noté celui-ci.
Très bon.
C'est vrai. En 2001, il tente une incursion dans la comédie sentimentale avec Décalage horaire. Parallèlement à ses gros succès hexagonaux, Jean Reno fait partie, à l'instar de Gérard Depardieu, des rares acteurs français à avoir mené une véritable carrière outre-Atlantique. C'est ainsi qu'il s'habitue à la machine hollywoodienne en rejoignant l'équipe de choc de Mission Impossible en 1996. En combattant le Godzilla en 1998 de Roland Emmerich et en jouant les espions aux côtés de Robert De Niro dans Ronin. De retour en France, il s'immerge dans l'univers de l'écrivain Jean-Christophe Granger en prêtant à deux reprises son physique massif au commissaire Pierre Niemans dans, oui t'avais raison, Les Rivières Propres en 2000 et sa suite.
Ah, bah oui.
Ça suit en 2004.
Oui, c'est. Alors, t'as les.
Les anges. Les anges de l'Apocalypse.
Ah oui.
En 2004.
C'était la suite, ouais.
Et en affrontant l'Empire des Loups en 2005, de Chris Naon. Après avoir tourné pour l'Italien Roberto Benigni dans Le Tigre et la Neige en 2005, il enchaîne immédiatement deux productions hollywoodiennes en 2006 avec La Panthère Rose.
Ah bon.
Où il incarne. Oui, le gendarme Ponton. et le Damned Icon de Ron Howard, adaptation du best-seller de Dan Brown.
C'est Tom Hanks, excellent.
Après la sortie de La Panthère Rose 2 en 2009, il apparaît début 2010 dans deux productions françaises. L'Immortel de Richard Berry et La Rafle, film de Roselyne Bosch. Donc, qui met en scène la rafle du Veldiv. Hein. Donc Jean Reno, il partage l'affiche avec Mélanie Laurent et Gad Elmaleh. Le natif de Casablanca continue de participer par ailleurs à de nombreux projets américains dont Blindé de Nimrod Antal et Margaret de Kenneth Lonergan, où il joue aux côtés de Matt Damon. En 2011, il accepte d'interpréter le docteur Luix pour son ami de longue date, Christian Clavier, qui essaie pour la première fois à la réalisation avec « On ne choisit pas sa famille ». Avec Clavier, cette comédie aventureuse affiche Jean Reno aux côtés de Muriel Robin et Elena Noguera. Il poursuit avec la comédie culinaire Comme un chef, donc là où il sera décoré du Gérard.
C'est pas gentil tout voilà. Ça. Ouais.
Aux côtés de Michael Youn, il refait équipe avec Roselyne Bosch pour les besoins David Mistral en 2014. Il rejoint l'univers de Benoît Brisefer avec Les Taxis Rouges. L'acteur joue ensuite un commandant de brigade dans le thriller Anti-Gang en 2015, qui donne lieu à une suite en 2023. On le voit aussi reprendre son personnage culte de Godefroy de Montmirail dans Les Visiteurs, La Révolution, et interpréter un cambrioleur chevronné dans la comédie Mes Trésors. Également friand de projets internationaux, Jean prend part à The Last Face, The Adventurers, La Fille dans le brouillard et Da Five Bloods. Toujours friand d'action et de thriller, Jean Reno campe à nouveau un tueur à gages dans Cold Blood Legacy, incarne le chef d'un groupe de mercenaires dans The Doorman et se glisse dans la peau d'un gangster dans Bronx d'Olivier Marshall.
Exact, ouais.
Également présent côté série dans Qui a tué Sarah, toutes ces choses qu'on ne s'est pas dites, et ainsi qu'une affaire privée. Il rejoint Kev Adams et sa joyeuse bande dans Maison de retraite 2, où il interprète le sévère Lorenzo, pensionnaire du Bel Azur Club. Franchement, ça te rappelle rien?
Si, ça me rappelle un petit peu...
Lorenzo.
Oui. Oui.
Dans le Grand Bleu.
Ah oui, exact. Oui.
Dans le Bel Azur Club.
Oui,
j'adore
ça, oui.
Donc voilà, donc j'avais choisi Jean Reno cette semaine parce que je comptais présenter Maison de retraite 2, qu'on comparera la semaine prochaine parce que là il nous manque du temps.
Exactement, mais on est tellement passionné par le cinéma, mon cher Pascal, qu'on faudrait toute une journée pour parler de cinéma.
On pourrait en parler pendant des heures, effectivement, mais on va rester sur une heure quand même. C'est déjà pas mal.
Absolument. Bon, voilà, on arrive au terme de l'émission. Jean Reno s'en va. On le retrouvera sur les écrans très prochainement. Et puis, bien évidemment, on va se donner rendez-vous cette semaine à La Brèche pour voir ce très beau rendez-vous Cinoche avec une belle sélection et puis des films sympas. Cocorico, par exemple. Ou d'autres films comme Captive.
Voilà, puis il y a aussi Maison de retraite qu'on aura en avant-première. C'est pour ça que j'avais fait un papier sur Jean Reno. Donc l'avant-première de Maison de retraite 2, ça sera le dimanche 11 février à 14h à La Brèche.
Soyez là.
Donc dimanche 11 février à 14h, Maison de retraite 2.
Vous allez passer un excellent moment. Merci Pascal.
Merci à toi Christophe.
Le mot de la fin, évidemment.
Eh bien, prenez soin des vôtres. Regardez-moi la télé. Écoutez Radio Grand Air et venez voir tout ce qu'on a vous montré. Il y a Maison de retraite, Pauvre créature, Captive, Dali, May December, Cocorico, L'Orient de Kensuke, il y a plein de choses à voir. Voilà, moi je vous souhaite une très bonne semaine cinématographique. Je vous dis à très très bientôt. À très bientôt Christophe.
Merci Pascal.